With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Non, mais il n'y a pas de clé du succès. D'ailleurs, il y a une grosse mode sur Internet qui sont les groupes Instagram sur objectif être millionnaire ou devenir successful, machin et tout. Méfiez-vous de ces gens-là, d'accord ? Méfiez-vous du mot succès déjà, méfiez-vous de tout ça, parce que ça dépend où est-ce que tu places le succès, où tu places la réussite. Si tu places la réussite au sens sociétal, au sens t'es connu, t'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux, c'est un succès qui est très dur à obtenir. Si ton succès c'est de faire ce que tu kiffes, bah là c'est un succès qui est facilement accessible, tu vois. Et je pense que le jour où moi, à la fin du mois, ou quand j'ai fait un travail, je vois l'argent arriver sur mon compte, je me dis ah oui c'est vrai c'était payé, ou j'arrêterai de me dire ah oui en fait c'était payé, à ce moment là il faudrait que j'ai un bouton qui s'allume chez moi et je me dis attention.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Je t'ai lavé le petit...
C'est gentil, merci. Tu me connais.
Comment ça va ta vie d'ailleurs d'hypochondriaque dans cette...
J'ai de la chance.
Dans cette vie pandémique.
Je vis avec une femme qui me comprend et ça a été très dur le Covid de surmonter ça. Les gens se rendent pas compte, mais quand t'as peur des germes, c'est pas genre « Oh, il a peur des germes ». Il y avait un mec qui m'a dit « Ouais, t'es relou, t'es hypochondriaque ». Je fais « Ouais, je sais, je suis désolé ». C'est le truc que j'ai à te dire, c'est que je suis désolé en fait. Voilà. Je ne sais pas quoi faire, c'est plus fort que moi, alors je suis en train de régler le problème certainement de manière psychiatrique avec un psy, mais ça n'est pas du jour au lendemain et j'essaie de faire des efforts et voilà, c'est compliqué. Mais je vais y arriver.
J'ai une amie qui était à Lyon en fait et qui m'a raconté qu'il y a un mec qui est venu te faire signer un truc et en fait il t'a filé son...
Ah, sur scène.
Son stylo.
Ouais.
Et que t'étais là...
Ouais, blocage. Bah oui, ouais. Alors j'ai demandé du... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit... en fait, je fais plus de dédicaces. D'habitude, je fais toujours des dédicaces après les spectacles, en mode... je rencontre 2-3 heures les gens, on rigole, on tape des bars, on fait des photos, ça fait plaisir à tout le monde, et même moi, j'adore ça. Là, avec le Covid, c'est compliqué, tu vois. Dès que le truc, il y a un virus chelou en France en ce moment, on a dit, bon, on arrête les dédicaces, on prend... Voilà, on fait attention, Navo, tu prends un micro, moi, je prends un micro, on fait attention quand on parle, on fait attention, l'équipe mettait... on garde des distances et tout. À l'époque, c'est genre, ouais, il est chelou, lui. 2 semaines après, le lockdown, tout le monde était enfermé chez soi. Donc, je dis, bon, pour une fois que ça a servi à quelque chose...
J'ai gagné vrai.
J'avais raison.
Il y avait un article dans Le Monde, justement, sur, en fait, tous ces gens qui se baladent avec des gels depuis des années. Ouais. En fait, leur revanche aujourd'hui qui est...
Ah bah ouais, là, complètement.
C'est nous qu'on a gagné.
Ouais, mais cela dit, le gel, moi, je trouvais ça un peu abusé à l'époque. Mais les masques, quand on voyait des personnes qui venaient d'Asie avec des masques, on se disait waouh, c'est bizarre, il est malade, mais pourquoi il nous inflige ça, il devrait rester chez lui. Or non, c'est la manière la plus altruiste de ne pas partager sa maladie, de dire j'ai peut-être un rhume, une gastro, je garde tout, et en fait maintenant j'espère qu'il restera ça de masque. Et après, alors à Lyon, ce qui s'est passé, c'est que j'explique aux gens, je fais voilà, je fais plus de dédicaces. Le mec il me dit ah, il me sort son stylo, je fais mec, exceptionnellement je l'ai fait pour toi parce que t'as le courage de vouloir le faire, viens, ouais. Le fais maintenant. Je lui fais, je dédicace et tout, et je fais par contre quelqu'un a du gel, hop, j'ai pris du gel, j'ai fait attention, clac, il a tout posé, et c'était cool. J'essaie de faire attention parce que moi, je peux aussi être une plaque tournante, du coup.
Ouais.
Parce que si je fais des dédicaces, bah après, c'est pas quelqu'un qui me le refile, c'est moi, je peux le refiler à beaucoup de gens.
Tu le refiles à plein de gens. C'est un peu le problème de de ces virus, quoi. Alors attends, c'est très rare, mais je prends mon téléphone parce que j'ai écouté deux trois trucs de toi.
Bon, ah, merde, qu'est-ce que j'ai encore raconté comme Non mais les gens ils se rendent pas compte, mais on te pose toujours des questions. Toi, tu dois faire parler d'un événement. Tu dis ah, j'ai un événement bientôt. J'espère que ça vous ferait plaisir de l'œuvre que j'ai réfléchi pendant 3 ans ouais. et tout. Et après, on te demande d'avoir des réflexions sur la vie en 3 minutes des fois.
C'est quoi cette histoire de... En fait, tu produis un truc, il y a un contenu dans ce que tu racontes.
C'est-à-dire ?
Bah, je trouve que c'est intéressant de... Si tu viens dire quelque chose, tu vois, dans ton spectacle, par exemple dans Pulsion, tu parles de la mort de ton père, etc. Enfin, ouais. Tu vois, en fait, c'est pas tous les jours que t'as qu'il y a des artistes qui se pointent en venant parler
du deuil.
Je suis
d'accord, mais l'œuvre en parle d'elle-même. Là, je me retrouve dans une interview où on parle de ma vie, de mon parcours, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, et je suis obligé d'avoir une objectivité, un avis, des fois assez intéressant, des fois pas du tout. C'est pour ça que des fois je dis de la merde.
Mais non, tu dis pas de la... Ah ouais.
Des fois, je dis de la merde. Des fois, je dis, mais alors, pourquoi je me suis embarqué là-dedans?
Mais pourquoi tu crois que tu dis de la merde?
T'as perdu ton téléphone portable, Fabrice Laurent. C'est que vous devriez le voir.
Il est là.
Ah,
ben,
il est là. Non, je t'en prie. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai peur de dire de la merde. J'ai peur de me dire, putain, de regretter ce que j'ai dit. Et puis voilà. J'aimerais que les gens comprennent que. On me pose des questions et j'y réponds. Voilà. J'essaye d'y répondre du mieux que je veux.
Un peu pour dire, tu veux dire de faire preuve d'humilité, c'est ça?
C'est pas de l'humilité, c'est juste que je ne.
T'as le droit d'avoir un avis?
Non, mais j'ai un avis, bien sûr, j'ai le droit d'avoir un avis, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis privé?
Ah!
C'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que je suis une personne publique que mon avis doit être public. Mon avis peut rester privé. Mon œuvre, elle est publique dans le sens où elle est accessible par le public. Il faut que les gens viennent, fassent la démarche, ils viennent, ils écoutent. Mais je vais pas jusqu'à eux en disant voilà ce que je pense.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Quand tu cliques sur une vidéo, tu fais la démarche de cliquer. Mm. Si ça t'intéresse pas, tu fermes. Tu commentes, tu t'aimes pas. Mais j'aimerais vraiment connaître la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir un avis privé? C'est intéressant.
Est-ce que tu te retrouves donc parfois à répondre à des questions auxquelles tu voudrais pas répondre avec le recul ou même sur le moment où tu te forces à répondre alors?
Non, j'aurais aimé qu'on me dise on va parler de ce sujet-là.
Okay.
Est-ce que t'es ok? Bon, moi, j'aurais fait mes recherches, j'aurais un peu établi, parce que faut savoir que la plupart des interviews se font des fois à 7h du matin. T'as la tête dans le... Vraiment, t'as la tête dans le huc. Et après, on te dit, alors, le conflit dans tel monde, telle partie du monde. Oh là là. Vous en pensez quoi, vous? Toi, en fait, t'es comme ça, t'attends, tu dis, d'abord, il y a les infos, et après, vous arrivez, on parlera du spectacle. Ok. Nanana, et 10 000 morts, vous en pensez quoi? Bah, c'est triste.
Ah ouais, ça, c'est ouf. Hein.
Ah ouais, c'est triste. Bah ouais, c'est triste. En fait, t'es pas du tout prêt. Il y a un truc avec... attention, ça, c'est des problèmes de gens qui ont déjà accès aux médias, donc c'est pas un problème, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi, j'aimerais bien être à ta place. » Mais
je suis pas sûr que ce soit...
Non, mais c'est un problème de... À un moment donné, on te dit « C'est maintenant, et ça a intérêt à être efficace maintenant. » Et là, dans ta tête, tu te dis « Mais si c'est pas efficace, qu'est-ce que je vais faire ?» Où est ma place si je ne suis pas efficace? Je suis pas quelqu'un d'efficace, je suis quelqu'un de réfléchi, je suis quelqu'un qui travaille, qui prépare. Moi, je suis pas un mec du live. Je suis un mec de la préparation. J'aime écrire, j'aime réfléchir, j'aime me dire, ah, je me suis trompé il y a 6 mois après, en me disant, ah, j'ai bien fait de pas le dire il y a 6 mois. Voilà.
De la répétition. On parlait juste avant.
Un mec de la répétition. je répète beaucoup.
On a fait une interview il y a... Alors, pour les gens qui ont l'habitude du format Histoire de succès, mais qui ne suivaient pas à l'époque de Mademoiselle, on avait déjà fait cette interview sur ton enfance, ta vie dans le petit violoniste, etc., etc. Mmh. Le fait que tu aies fait du violon alors que tu ne savais pas ce que c'était qu'un alto, blablabla. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller écouter, ce qui ressemble un peu à ce que je fais aujourd'hui. Moi, ce qui m'a intéressé un peu, c'était justement de voir depuis, je ne sais pas, cette interview, elle date de 2016-2017, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Et en fait, l'un des trucs qui m'a vraiment marqué dans ton parcours, c'est que tu es devenu producteur.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, c'est pas tous les humoristes à un moment donné qui se disent « Ok, bah, moi, mon rôle à moi, c'est pas juste de monter sur scène et d'écrire des blagues et de faire des blagues, c'est à un moment donné aussi peut-être de rendre d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de faire en sorte de produire des trucs à toi, quoi. »
Grave.
Et je voulais parler un peu avec toi de... Alors que les gens le voient pas, mais tu viens de t'installer par terre.
Oui, oui, c'est
bon. À l'aise, c'est bien. Et je voulais parler un peu avec toi justement de cet aspect-là et de ce qui t'a incité à te dire « Ok, je vais monter ma boîte de prod. » Ta boîte de prod qui s'appelle « Faire kiffer les gens ».
Ouais.
FKLG.
Ouais.
C'était une... Donc avant ça, en fait, t'étais produit par Harry Turgeman, ouais, qui a monté, enfin avec qui vous avez monté, bref, Bloqué, ouais, Serge Le Mito aussi.
Exactement, ouais.
Et qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu t'es dit, tiens, ça peut être intéressant de créer ma propre structure?
Écoute, déjà, il y a plusieurs profils d'artistes. Il y a des artistes qui sont des artistes, c'est-à-dire eux, leur métier, c'est monter sur scène, faire leur œuvre et sortir. Dans tout ce qu'on a fait avec Bruno, et c'est pour ça que c'est une aventure qu'FKLG, c'est une aventure que je fais avec Navo aussi, c'est, nous, ce qu'on fait, c'est, on a une idée, on l'écrit, on la fait, on la réalise, et après, on la diffuse, et on sait comment la diffuser, on a des idées sur comment la diffuser, sur comment la promouvoir, sur comment faire les choses, encadrer les choses, comment la on est toujours à toutes les échelles. Même dans Bref, on était à l'échelle de prod, des fois. Alors, à moindre mesure, parce que Harry a fait un gros travail de prod, mais nous, on était producteurs, qu'on avait des choix à faire, on était là, genre, OK, maintenant, donc il faut faire attention à ça. Là, il n'y a pas l'argent sur ça. OK, on avait des réflexes de producteurs, tu vois. On a toujours eu un réflexe. Navo te dira non, mais il a un réflexe de producteur, il a une vision de producteur.
Pourquoi il dirait non, Navo?
Parce que il dit non, moi, j'écris, je pars. Non, c'est pas
ah
vrai.
Ah oui, il veut pas.
Il veut pas voir que tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. J'ai toujours eu une attitude de producteur, en fait. Je me suis juste rendu compte que j'étais un producteur, et d'ailleurs, tous les gens qui travaillent avec moi savent que je suis extrêmement investi dans tous les process de... Tu parles d'Un Bon Moment, par exemple. C'est une émission qu'on fait sur ma chaîne YouTube, oui, tous les dimanches. De la caméra choisie au chef opérateur qui fait la lumière, au technicien, au mixage du son, à l'étalonnage, jusqu'à la vignette YouTube, je suis à tous les éléments. Je valide tout, dans tous les sens. Et j'ai toujours fait ça, et même dans Bref, de l'idée jusqu'à la vignette de l'épisode, c'était nous. Et je pense que c'est quelque chose que je kiffe faire, parce que je trouve que c'est bien d'avoir une vision globale et d'appliquer une vision globale sur une œuvre, une création artistique, ou une création tout simplement. J'ai toujours fait ça. J'ai senti qu'avec Harry ne voulait pas ouvrir sa structure, du coup, bah, j'ai créé la mienne tout simplement. On aurait pu faire ça ensemble.
Ouais.
Du coup, ça s'est fait tout seul. Mais avant de le faire, il fallait une personne exceptionnelle pour le faire. Et je n'aurais pas pu le faire seul si je n'avais pas eu la rencontre avec Valentine Mabille, qui est une personne exceptionnelle, qui est une directrice de production, qui est une productrice, qui est une tourneuse. C'est-à-dire qu'elle fait tourner des artistes. Elle a un relationnel avec les artistes qui est exceptionnel. Elle est très aimée dans le métier. Elle sait monter les choses, c'est une négociatrice exceptionnelle. Voilà, donc du coup, l'aventure de production, oui, mais avec une bonne équipe, toujours. Donc voilà.
Tu as toujours réussi toute ta vie à t'entourer aussi bien?
Non, 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 non. Bah non, c'est parce que je me suis mal entouré que j'ai réussi à bien m'entourer. Oui.
Ça aussi, je crois qu'on va en mettre, on va en faire une petite vignette, quoi, tu vois.
Non, mais c'est vrai.
La clé du succès qui est aujourd'hui.
Il n'y a pas de clé du succès. D'ailleurs, il y a une grosse mode sur Internet qui sont les groupes Instagram sur objectif être millionnaire ou devenir successful, machin et tout. Méfiez-vous de ces gens-là, d'accord? Méfiez-vous du mot succès déjà. Méfiez-vous de tout ça parce que ça dépend où est-ce que tu places le succès, où tu places la réussite. Si tu places la réussite au sens sociétal, au sens t'es connu, t'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux, bah écoute, si tu veux courir après ça, c'est un succès qui est très dur à obtenir. Si ton succès c'est de faire ce que tu kiffes, bah là c'est un succès qui est facilement accessible, tu vois. Généralement, tous les gens que je côtoie, qui sont des gens que j'admire, qui ont du succès, sont des gens dont les conséquences dont on parlait, que les comptes Instagram visent, tout ça sont des conséquences. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire ce qu'ils kiffent. Et à la fin, voilà. Et je pense que le jour où moi, à la fin du mois, ou quand j'ai fait un travail, je vois l'argent arriver sur mon compte, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était payé. Ou j'arrêterai de me dire, ah oui, en fait, c'était payé. Je pense que je ferai un step back, c'est-à-dire je ferai machine arrière, pardon, excusez-moi. Je crois que ça sonnait plus américain, on parle de succès là. Non, on parle d'Amérique, États-Unis quoi, New York. Non, mais je pense que à ce moment-là, il faudrait que j'ai un bouton qui s'allume chez moi et je me dis attention.
Et comment tu vas faire pour t'en rendre compte? Parce que je crois que c'est super dur de se rendre compte de ça.
Bah, c'est ce qu'on se dit toujours. Est-ce que t'en as besoin? Est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais les choses? Bah, y a des trucs, je les fais pour moi, dans tous les sens du terme. Quand je fais mon album, je le fais pour moi, hein, je le fais pour aller mieux. Et j'essaie de partager quelque chose avec les gens qui est intéressant, que je pense intéressant. Je peux me tromper. Là, c'est un pari, hein, je prends... ben voilà, je prends, c'est mon argent que je mets en jeu et que je dis voilà, je vais produire des choses, je vais payer des gens, je vais payer des gens, des techniciens, dans tous les sens, des artistes avec qui on va collaborer, je vais avancer avec eux et puis c'est un pari. Et puis quand il y a des opérations, tu fais ok, ça je le fais, ça je sais que je le fais un peu pour l'argent parce que cet argent va me permettre de produire justement ces artistes-là, de produire un bon moment, de produire ça. Parce que voilà, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'à un moment donné, il faut, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut de l'argent. Tu peux pas, surtout à maintenant, à un niveau où j'ai fait des choses, je ne peux pas faire travailler les gens gratuitement de toute façon. Déjà parce que c'est un truc que je n'ai pas aimé quand on fasse sur moi. Quand j'étais en début de carrière, on me disait souvent, t'as de la chance, si tu veux, il y a plein de gens qui... Je me rappellerai toujours ce directeur de théâtre qui m'a dit, écoute, Kian, il y avait un concours d'humoriste foireux. Il m'avait dit, je fais, mais attendez, déjà, on n'est pas payé, on vient tous les jours, on doit ramener 3 personnes par spectacle. On pourrait au moins avoir un sandwich et un verre d'eau. Et on m'a dit, ça sera, on m'a dit, écoute, Kian, il y en a du monde au portillon, il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Donc, si tu veux partir, la porte est ouverte. J'étais là, genre. Et je suis resté.
Bah oui.
Parce que ce chantage, il marche. Parce que je pensais que je m'étais tricard avec, je me dis, si je me tricard avec des gens, c'est horrible. En fait, il s'est avéré que ces gens-là qui étaient, après, c'est de leur magouille à continuer 1 ou 2 ans ou 1 an. Et en fait, c'était une grosse magouille. Et en fait, les jeunes artistes se font avoir gratuitement. Donc, je ne fais pas travailler les gens gratuitement. Voilà. Même pour voir. Les gens qui me proposent leurs services sur Internet en mode, ah, je te crée gratuit. Bah non. Tu vaux quelque chose. Et si ça fonctionne pas entre nous, bah on travaillera plus, on arrête de bosser ensemble. Mais c'est pas parce que t'es gratuit que t'as de la valeur.
C'est dur, c'est ça, de se rendre compte de ça.
Ouais. Ah ouais, tu crois ?
Ouais. Bien sûr, surtout quand tu débutes. Bah, la preuve, tu vois, t'es resté dans le game, toi, à l'époque.
Ouais. Bah ouais, à l'époque, en plus, on faisait plein de travaux. Je me rappelle, à la télé, là, il y avait un truc, on devait écrire. Et on était payé que quand c'était validé. Alors, c'est pas genre, il y a un mec qui lit, qui dit c'est validé. C'est validé quand c'est passé à la télé. Donc, on écrivait des textes. Et à un moment donné, quand les textes étaient validés, mis en montage, enregistrés par des gars, et après diffusés à la télé, là, on était payé. Et ça, c'est une carotte, mon pote. Parce que ça veut dire que toi, t'écris. Tu te tapes à écrire des blagues, machin. Tu t'essaies de trouver. On pense que l'écriture, c'est rien. Mais c'est quand même dur.
C'est dur.
On écrit. T'as des galères de loyer à ce moment-là. Il y a un mec, un monteur, lui il est payé. Il est payé la journée, tranquille, il touche son cachet. Et tant mieux pour lui, c'est normal parce qu'il est syndiqué en fait, tous les métiers de la technique sont syndiqués. Ensuite, t'as un réalisateur qui vient, qui enregistre les voix, les gens qui font des voix, ils sont payés. Le producteur, lui, il a touché l'argent de la chaîne, il est payé pour t'orchestrer tout ça. Il va toucher son argent, il n'y a pas de galère. Et au moment donné où tu passes à la télé, c'est bon, il peut te délâcher l'argent pour laquelle tout le monde a été payé et toi t'as pas été payé. C'est-à-dire que t'es le nerf de la guerre et le nerf est payé à la fin. Et ça, c'est une carotte de ouf. Et je me rappelle très bien, j'avais une embrouille avec le producteur. Je dis, mais pourquoi on n'est pas payé? Pourquoi les autres sont payés? Il fait, bah écoute, Kian, t'es débutant, hein. Il faut pas croire. Je l'ai mis dans ma chanson, je te déteste. Les gens qui te disent, c'est normal, t'es pas payé, c'est normal, c'est comme ça quand t'es jeune. Et je fais, bah non, ça marche pas comme ça la vie. Et en fait, je trouvais ça fou. Et le gars a supposé qu'il allait me virer. Pareil, le monde au portillon, tu vois, le fameux monde. J'aimerais bien le rencontrer, ce portillon, où il y a des gens qui veulent bosser gratuitement et tu peux leur manquer de respect comme ça. Je trouvais ça très, très insultant à l'époque. Et on me faisait comprendre que j'étais un peu syndicaliste en mode, voilà. Moi, je me suis toujours battu pour que tous les artistes soient payés à chaque fois. Même quand j'étais un des artistes, je disais, non, mais vous pouvez pas nous faire travailler gratuitement. Vous allez le vendre à la télé, vous l'avez touché de l'argent là-dessus. On doit au moins tous toucher un cachet. De 78 euros net. 78,12 euros, c'est net le cachet. Au moins, on peut toucher 78 euros. On vient, on est enregistré pour la télé, vous allez le vendre. Oui, mais non, c'est un documentaire. Et puis, c'est sur la ligne, toujours. Oui, non, c'est un documentaire, ça vous rend service, c'est une exposition. Je sais, mais mon propriétaire, il s'en bat les couilles que j'ai de l'exposition. Moi, j'ai besoin des 78,12 euros, j'en ai besoin. Mec, c'est 10 repas, de quoi tu me parles? Et à un moment donné, t'as ce truc un peu de je sais plus pourquoi on est arrivé là, d'ailleurs.
Non, parce que j'ai parlé de monter ta boîte et de.
Ouais, bah voilà, donc j'essaie de. Voilà. Et le mec, il me disait, je te propose mes services gratuits. Je fais, non, tu vaux plus que gratuit. Après, on peut essayer de travailler ensemble. Mais de toute façon, avant, on dit toujours, bah écoute, notre collaboration, on essaye. Notre collaboration est encadrée financièrement, ce sera ça. Cette somme, est-ce que celle te convient? Si elle te convient, tant mieux, on bosse. Et ensuite, à la fin de cette. Et on continue. Ou on continue pas. On teste, quoi. Mais oui, les nombres de carottes de gens comme ça, au début, ouais, les gars, ils te promettent. Le concours, c'est une carotte de ma boule. Le concours. Non, faut faire attention à ça.
Parce que ça revient beaucoup sur l'estime de soi, en fait. Hein.
Tu crois?
Donc, je suis en train de monter ce fameux podcast d'histoire d'argent, là, où je vais faire parler les gens d'argent. Et en fait, je me rends compte que tout revient autour de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si toi-même, t'es convaincu que tu vaux et que ton travail vaut par la même, tu vas demander de l'argent en échange, quoi.
Ah oui, oui. Enfin, en même temps, c'est la loi. Surtout, moi, je suis juste un juriste, un ancien juriste qui dit, les gars, c'est la loi.
Quand t'es freelance, par exemple, tu vois, tu peux très bien bosser gratos quand t'es freelance.
Mais ça, c'est ton choix.
Oui, bien sûr.
Si c'est ton choix, tu as le droit de travailler gratuitement pour quelqu'un. Tout le monde a le droit de travailler gratuitement si c'est ton choix. Si c'est une promesse, faut faire attention aux promesses. Les promesses dans le métier, c'est compliqué d'être tenu en plus, parce que rien ne t'oblige à tenir ta promesse derrière. Donc, c'est pour ça que le législateur a dit, quand il y a un rapport de travail, il y a un contrat. Et on se met d'accord sur ce qu'on touche. Et comme ça, il n'y a pas de surprise. Parce qu'il y a eu trop de surprises. On arrête. On arrête les surprises. Donc voilà, c'est les petites carottes du début. Et en fait, ça te forge. Mais j'ai jamais changé. Hein. J'ai toujours été très... défendre les artistes, quoi. Les artistes, tu vois, qui se rendent pas compte et leur dit voilà, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, défendez-vous, vous avez une valeur.
Je voudrais te parler d'un bon moment.
Ouais.
Qui est. Alors, j'ai l'impression que ça a été aussi votre occupation pendant le Covid.
Exactement, ouais.
C'était ça un peu l'objectif
de promotion. C'était un truc de promotion de mon spectacle à la base pour promouvoir qu'on était en tournée et tout, pour être avec les gens, rigoler, taper des bars. Et à un moment donné, il n'y a plus de spectacle. Donc, on dit bon, il y a un bon moment, c'est cool.
Tu t'es transformé en intervieweur.
Ouais.
Et c'est très drôle parce que, enfin, moi, je t'ai vraiment vu progresser en fait d'épisode en épisode. Et là encore, je trouve que c'est intéressant de devoir sortir de ce cadre-là parce que, de mon point de vue, tu vois, en tant qu'artiste, toi, ton métier à la base, c'est quand même de monter sur scène devant des tas de gens et de parler. Et en fait, les gens t'écoutent. Et là, tu t'es retrouvé. Peut-être, alors j'allais pas dire pour la première fois de ta carrière, parce que j'imagine que quand tu fais bref, etc., il faut que t'écoutes énormément, parce que t'as beaucoup travaillé avec les gens d'une manière générale, donc il faut que t'écoutes, mais c'est un autre style d'écoute.
Ouais, grave.
L'écoute de l'interview.
En fait, à un bon moment, je suis pas intervieweur, moi je suis un pote qui parle avec ses potes. Donc si tu crois que je suis un intervieweur, je dis oh, putain, il lui coupe la parole, je parle à un pote comme à un pote, quoi. On parle, on échange, on se coupe la parole, mais ça va dans les deux sens, c'est pas que moi ou c'est pas que Navo. Mais j'ai beaucoup plus appris maintenant à me positionner en écouteur parce que au début j'avais peur que je remplissais le vide parce que j'avais peur que les gens étaient mal à l'aise en face, donc je me suis dit merde, je vais essayer de meubler au début. Et d'ailleurs, quand tu fais une interview au début, quand quelqu'un est pas impressionné mais toujours un peu timide en début d'interview, tu te dis qu'il faut au début, il faut meubler un peu pour qu'ensuite la personne dise ok, c'est bon, le stress est parti, maintenant je peux parler. Et j'ai senti je faisais cette méthode et en fait j'apprends quoi. De toute façon, j'essaie de m'adapter aussi à la personne qui est en face. Tu interviews pas Vincent Delerme comme t'interviews Maffei et Carlito.
Oui.
Tu vois, donc c'est deux énergies différentes. Et d'ailleurs, à la fin, l'énergie n'est plus la même. Donc...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc ouais, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai beaucoup appris à...
C'est-à-dire
J'ai appris à... Je me suis dit, tiens, là, c'est marrant, t'as ramené à toi alors que ça valait pas le coup. Donc, il y a un truc qui fait que tu ramènes à toi. C'est bizarre, ça. Vas-y, arrête de parler de toi un peu. Ok, t'as raison, ouais, carrément. Allez, on arrête, salut, ciao. Et hop, c'est bon. Et ça avance et j'ai appris beaucoup sur moi. Donc, je me suis vu, je me suis regardé. Parce que je fais le montage avec les monteurs. Rien, j'ai appris sur moi. En fait, je peux pas être le meilleur. La première émission, c'était avec Roman Fraissinet et Ahmed Sparrow. Et je suis dans un état de stress énorme. Et,
c'était pas bloqué, c'est pas les...
Non, la première diffusée, c'est bloqué, mais la première qu'on a enregistrée, c'était celle-là.
D'accord.
Et je le vois, même dans bloqué, je suis un peu stressé et tout. Et même si je suis avec mes potes, je me suis stressé.
Mais c'est super dur, t'as cinq personnes autour de la table, ouais. Avec qui il faut faire jongler la parole, quoi. C'est hyper dur à faire.
Très très dur,
c'est
mais
un métier.
Bon, on se lance, quoi. Et puis on l'a fait, et puis les retours sont cool, les gens sont contents, moi je suis content, tout simplement. Après, ça, c'est pas sans changer, révolutionner les choses, mais on essaie de faire les choses bien. Une belle image, un beau son, des belles conditions, voilà.
C'est marrant aussi parce que j'ai acheté au printemps dernier un truc sur une bonne boutique.
Ouais.
J'ai acheté un très chouette cadre, donc je suis très heureux,
ouais.
Très fier. Ça aussi, en fait, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, ça serait marrant de lancer une boutique avec où je vais venir mettre... tu sais, j'ai acheté des paroles de Ben.
Ouais, bah ouais, carrément.
Dédicacées par lui et tout.
Ouais.
Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui fait que Kian a monté ce truc? C'est fou, quoi.
J'adore le merch, moi. Je suis okay. Un grand consommateur de merch d'artistes. J'adore les bons merch. Je trouve que quand t'as une phrase d'un artiste que t'aimes... Bah, je sais pas, ça, c'est une partie de ton identité que tu révèles et t'as envie de l'afficher, t'as envie de faire des choses comme ça. Donc, je me suis dit, bah, on a toujours dit non pour faire le merch de Bref, de Bloqué, de Serge, parce que c'était toujours un peu houleux. On a jamais trop senti les gens avec qui on travaillait et tout. Et je me suis dit,
oui,
bah,
t'avais aussi des marques qui venaient de vous voir pour faire une voiture.
Ouais, voilà,
Bref,
c'est ça. On a eu plein de choses comme ça. Et puis, à chaque fois, on se rendait compte que c'était pas très, je suis ravi de pas avoir fait de t-shirt en 2011. C'était pas très écologique, tu vois. Donc on essaie d'avoir une démarche un peu plus écologique, un peu plus fair trade, un peu plus humaine aussi, tu vois, parce qu'il y a des... Mine de rien, le t-shirt, c'est un business qui est hyper douteux. Donc il faut faire les choses bien. Donc on a cherché des gens qui ont des chartes, qui ont on essaie d'avoir une charte de bons produits. Donc on travaille avec des équipes qui font des bons produits, c'est sourcé, on fait attention, c'est contrôlé régulièrement. Voilà, on a mis du temps, quoi. Puis derrière ça, faut mettre un prix, faut le vendre et tout, et puis faut être un peu rentable parce que sinon tu peux pas non plus le faire gratuitement, tu peux pas le faire trop cher. Il faut voilà. Et j'aime le côté aussi des prints. Les prints, c'est ce que j'aime. J'adore. J'en ai plein chez moi, des prints, des trucs imprimés d'artistes et tout dédicacés. J'adore ça. J'ai tous les artistes que j'aime, tous mes amis m'ont toujours fait un petit truc dédicacé. J'ai toujours une petite dédicace, un petit dessin. Tous les gens avec qui j'ai travaillé qui sont créatifs m'ont offert un dessin ou un truc comme ça que j'adore. Et donc c'est les choses que j'aime en fait, et je me dis bah tiens, on va créer cette plateforme qui s'appelle Une Bonne Boutique, et ça sera pas que pour moi, ça sera aussi pour tous les artistes qui veulent faire des œuvres. On a créé le truc, on a créé le sourcing, c'est-à-dire on a créé tout le chemin de création jusqu'à la fin, et en plus on peut se permettre de rémunérer les artistes correctement. Donc c'est ça le plus important, et de pas passer par un énième gars qui te dit au final bon bah tiens, tu touches je sais pas 3-4% de ce que t'as, toute ta création. Encore une fois, j'ai cette vision, mais on le voit beaucoup dans l'édition du livre. Mais par exemple, avec quelqu'un qui crée un livre, bah, il va toucher un peu d'argent au début, et après, il va toucher entre 5 et 9% de son livre à la FNAC. Et tout le monde va toucher le reste. À juste titre, hein, c'est eux qui ont pris des risques. Mais je trouve pas ça à faire. Je suis désolé, mais je trouve pas ça à faire. Pour moi, quand t'es l'introduction du projet, tu devrais être à l'introduction des revenus. C'est Nekfeu qui dit ça. Il dit j'ai aucun problème. Je fais pas les choses pour l'argent, mais je déteste qu'on s'en fasse sur mon dos. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne phrase de Nekfeu, ça.
C'est trop intéressant. C'est marrant parce que depuis
ce podcast... pardon. Mais
vas-y,
pour
vas-y.
Tout ça, bah, il fallait se prendre la tête pour créer un chemin un canal de vente, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, bah, maintenant, on va créer un truc nous-mêmes et on va le faire nous-mêmes. Et c'était une grosse équipe. On a fait pareil. J'ai dû embaucher des gens. On a fait le travail. Il y a Alexandra qui s'occupe de la boutique, qui est très forte et qui s'occupe de tout. Il y a eu un gros travail de recherche.
Et ça, à chaque fois que tu montes un truc, tu fais en sorte de le rendre rentable, d'une manière ou d'une autre.
Non, je fais plein de trucs qui ne sont pas rentables. Mais non.
Non.
Un bon moment, ça n'a pas été rentable.
Bah, raconte-moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu crées un bon moment en disant ça ne va pas être rentable et ce n'est pas très grave?
Mais ce n'est pas grave, parce que le but, c'est de faire kiffer les gens. Encore une fois, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais les choses?
Ouais.
On fait les choses pour kiffer les gens, pour faire kiffer les gens. On avance. Après, on trouve des sources de revenus. On peut trouver un sponsor le temps de quelques émissions. On peut trouver un autre sponsor le temps de quelques émissions. Mais le but, c'est de garder une ligne éditoriale, toujours de sa ligne éditoriale et la ligne des invités, de faire ce que tu veux. Donc, on essaie de faire ce qu'on veut. Et voilà, quoi. Donc, puis on s'amuse. Et puis, si on arrive à être rentable, tant mieux. Et si on arrive à être juste à l'équilibre, tant mieux, on a gagné. Le but, c'est ça. Le but, c'est de créer des choses en attendant. Parce que, mine de rien, ça a créé beaucoup plus que de l'argent à un bon moment. Ça a créé une connexion avec les gens qui est beaucoup plus forte que l'argent. L'argent, c'est sympa, mais là,
comme
c'est...
quoi, par exemple, comment tu le vis, toi?
Bah, les gens dans la rue nous arrêtent avec un Navo, on est là, ils connaissent Navo, ils apprennent à connaître la valeur de Navo, qui est vraiment cette personne que
j'adore. C'est vrai que Navo est habituellement dans...
Il est devenu connu, là.
Il est dans l'ombre, hein, Navo.
Ouais,
dans
les gens nous parlent d'un bon moment, ils nous envoient des courriers, on reçoit beaucoup de lettres sur un bon moment. Moi, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de courriers, de gens qui m'écrivent, un bon moment, ça me fait du bien, le dimanche soir, c'est un peu le bad, grâce à vous, on est là, on est bien. Bah, tant mieux. Et ça, c'est pas l'argent qui l'achète. Mais c'est l'argent qui le transforme, l'électricité et la technique et les locations des matériels en bon moment.
C'est trop intéressant, vraiment. En fait, à quel moment t'as toujours eu cette vision de businessman, en fait? Parce que pour moi, en fait, il faut avant tout avoir une vision de businessman pour aussi te dire, ok, bah, en fait, il y a des trucs qui vont pas être rentables, mais c'est pas grave parce qu'en fait, à la fin, on finit par faire ce qu'on a envie de faire. Et même si l'objectif n'est pas de gagner des millions d'euros avec ta boîte de prod, etc., c'est quand même de te dire, ok, en fait, ça me permet de pouvoir créer. Tu vois, j'ai une structure qui me permet de pouvoir créer.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai de la chance de travailler avec des jeunes réals. J'ai un gars qui s'appelle Pierre Hilleret, à qui je travaille, qui a 22 ans, que je salue.
Est-ce que c'est le fameux gars qui a monté tes clips, là?
C'est Jérémy Levipon, lui, il a 21 ans. Il est encore plus fort, là, encore. Okay. Ces petits salauds de jeunes, là, qui sont trop forts, là. Mmh. Non, Pierre, c'est un mec que j'ai rencontré par Anis Rally, le créateur.
Qui est dans la bande de Panayotis, de...
Voilà, c'est ça, exactement. Pérou, exactement, ouais, la bande. Ça s'appelle déjà
C'est Multiprise.
Multiprise,
non,
c'est Multiprise, ouais, que j'ai reçu plusieurs fois dans l'émission et tout. Et ben, un jour, il y avait un gars qui s'appelle Pierre. Il me dit, ah, il est super, lui. Je dis, ok, cool. Et puis, Pierre, je l'appelle et je lui dis, bah, tu sais quoi, on cherche un monteur pour un bon moment, ça te dit d'essayer. Et puis, on est trois monteurs. Il y a Alfie, lui, Nico, et il y a. Je crois que c'est les trois. Mm. Et donc, il y a trois monteurs sur un bon moment. Puis, il est là. Puis, à un moment, je lui dis, tu sais quoi, j'aimerais bien faire des vidéos un peu courtes, TikTok, des petits trucs pour le spectacle et tout. Ça dit de le faire? Ouais, grave. Écoute, tu vois avec Valentine, et puis mettez d'accord sur le deal, et puis après je t'envoie les vidéos, et puis on le fait. Ok, grave. Et on fait ça, et ça se passe bien, et c'est un mec trop drôle. Et quand il m'envoie ses créations, je me dis, c'est trop marrant, mec, bravo, j'aurais pas fait mieux, c'est trop bien ce que tu fais. Et en fait, c'est la structure, elle me permet de faire ça. Et c'est grâce à ça, tu vois. Et puis comment on paye ça? Bah, c'est les gens, quand on fait des vidéos par rapport au spectacle, et ben, il y a des tickets, c'est du budget du spectacle. On gagne un peu d'argent sur le spectacle, et ben on l'injecte là pour faire parler du spectacle. C'est des budgets de communication, tu vois. C'est tout con. Mais au final, c'est vraiment pour dire, ouais, les gars, on a fait un super moment, je vous en rends un, voilà. Comme ça, le public se voit en plus, ils sont contents, on a fait un moment fort, on fait des moments des blagues, tu vois. Ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière. Mais c'est qui font les sushis. C'est quand même bien les sushis, hein. C'est bien les sushis.
Les sushis, c'est cool.
Faut pas trop en manger, mais c'est bon, hein. Non, mais là, on est parti sur l'argent. Mais tout ce que je veux dire, c'est que cette structure, elle me permet de créer. Voilà. Même là, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, je vais mobiliser 5-6 auteurs et on va écrire des blagues. Je leur dis, les gars, moi, je cherche des punchs, des blagues, des trucs comme ça. J'en ai besoin. Donc là, j'ai 10 pages de punch que j'ai payé à plein d'artistes. J'ai aucun but derrière ça, mais au moins, j'ai des blagues. Je me dis, bah, je les ai. J'ai acheté des blagues à des artistes, tu vois, tout simplement. Je leur ai dit, bah, écrivez, voilà, c'est vos blagues, hein, c'est vos blagues, vos droits d'auteur, je m'en fous, tu vois, je suis pas en train de dire c'est mes blagues, mais je dis, voilà, cool. Eh ben, on va voir ce que j'en ferai un jour, mais au moins, je sais que j'ai un paquet de blagues, et si un jour, je veux développer des choses, ben, j'ai déjà une base ici.
C'est fou. Tu te rends compte quand même du chemin depuis 10 piges? Même plus, 15?
Explique-moi, parce que j'arrive pas à voir ton point.
Bah, en fait... C'est trop intéressant de voir ton évolution depuis 15 piges et de ton premier spectacle où t'étais pour le coup juste entre guillemets humoriste et tu venais jouer, etc. Et de voir aujourd'hui comment t'as transmuté, en fait.
Je rends aux gens de moi qu'à l'époque. En fait, je fais exactement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à l'époque, ouais. Tout simplement. Il y a des gens qui m'ont aidé à l'époque. Voilà, à mon tour, j'aide les gens qui... Enfin, c'est tout con. Ça
comment tu fais pour aller chercher les gamins de 20 ans là, qui sont des petits génies, et t'as des, comment dire, t'as organisé ça d'une manière ou d'une autre, ou alors c'est les gens viennent à toi?
J'ai une chance énorme, c'est que les gens viennent à moi. Ouais. Ouais. J'ai tous les gens talentueux viennent à moi. Enfin, pas tous, mais beaucoup de gens talentueux viennent à moi. Et du coup, dès que j'ai le temps de regarder aussi, parce que j'ai pas tout le temps de regarder, mais dès que j'ai quelqu'un qui regarde, je dis, putain, ça c'est génial, ça, putain. Et je dis, lui est trop fort pour ça. Mais c'est ce que j'ai fait pour tout. Même dans, bref, c'est tous les acteurs, c'est, il est trop fort pour ça, lui est trop fort pour ça, elle est trop forte pour ça. Il est trop fort. Il y a que des gens trop forts, en fait. Il faut juste savoir les motiver. Et donc voilà quoi. Et donc je travaille beaucoup avec des jeunes équipes parce que les jeunes équipes il y a une envie et tout. Et quand je dis jeune, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie. Je pense que la jeunesse se définit par l'envie et la soif de faire. Il y a des jeunes, il y a des vieux de 18 ans et il y a des jeunes de 42 ans. Il y a des jeunes de 70 ans. Donc ça n'a rien à voir.
C'est trop intéressant, vraiment. Parlons de ton album.
Oui.
Oh là là. Écoute, première fois que j'ai écouté ça, on se connaît depuis longtemps. Hein. Okay.
J'ai compté dans à peu près 100 000 albums, j'aurais vendu 100 000 albums. Non, c'est juste pour la blague. C'est juste que je trouvais la blague marrante. Voilà,
ton objectif n'est pas de vendre des albums.
Aucun.
Bah voilà, c'est pour ça que je ris. C'est fou parce que j'ai écouté cet album et j'ai découvert une autre facette de toi. Mmh. Et c'était un peu l'objectif, j'imagine.
J'avais pas d'objectif de découverte, mais en tout cas, j'avais envie d'écrire.
Mais tu vois, typiquement, c'est très intéressant de te dire, bon alors je sais que tu viens d'un, et peut-être les gens le savent pas, mais tu viens d'un vrai parcours, allez écouter la première interview qu'on a fait ensemble, mais tu viens d'un vrai parcours musical, t'as fait le conservatoire, etc. Mm-hmm. etc. Effectivement, tu montais sur scène, c'était ton premier spectacle, tu jouais du violon, t'avais plein de sketchs avec ton violon, etc. C'est des choses que t'avais un peu laissées de côté, et c'est trop drôle de voir que tu décides de... T'as ces textes-là qui sont durs et noirs, et j'imagine une forme de catharsis pour toi à un moment donné de venir les écrire, et que tu t'es dit, bah en fait plutôt que d'en faire un spectacle, je vais en faire un album. C'est d'où ça te sort?
C'est très simple, hein. C'est des rencontres, hein. C'est rencontrer Clément, jeune artiste trop fort. Je dis, ah j'ai fait ça, il écoute, il fait, ah c'est super. J'écoute, je regarde Guillaume Brière aussi, Guillaume qui a travaillé avec The Shoes, qui a travaillé avec Aurel, qui travaille avec d'autres artistes, plein d'artistes dans le monde d'ailleurs. Et je lui dis, bah tiens, j'ai ce texte-là, qu'est-ce que t'en penses? Bien, on le tait, on l'enregistre, on essaye et tout. Et puis voilà, c'est juste se lancer, y aller, beaucoup douter. Et puis à un moment donné, tu redoutes encore un peu. Et puis après, tu redoutes encore deux, trois fois. Puis jusqu'à la fin. Puis à un moment donné, t'as plus envie de le finir. Et puis après, tu te forces un peu parce qu'il y a un mec qui te met une deadline, un mec comme Clément Lieb, qui est un mec formidable, qui a tenu le projet de A à Z, qui a su me remotiver en permanence. Et puis go, quoi, faut y aller. Ça donne cet objet un peu étrange, hein, c'est un objet un peu étrange, hein, cet objet, cet album. C'est, je trouve que c'est un peu, c'est pas dans la tendance du tout, c'est pas du tout, je pense même pas que ce soit ancré temporellement.
Ah oui, non.
Je pense que tu peux l'écouter dans deux ans, oui. Dire, ah ok, oui, il parle de ce sentiment-là, ou je parle de choses assez,
Tu parles d'émotions et de...
Ouais, je parle de choses que j'ai identifiées sur plusieurs schémas, en fait. Un schéma de vie, c'est quelque chose que tu répètes, genre, tu te mets avec une meuf, c'est pas la fille que tu croyais, elle te largue, tu te retrouves tout seul, tu t'en veux, tu te remets avec une meuf, finalement c'est pas la meuf que tu croyais, etc. Tu vois, là ça fait deux fois. Et troisième fois, tu vois, troisième fois que c'est bizarre, là. Et donc tu te retrouves, ah tiens, je suis dans un schéma, et donc tu identifies les schémas. Et c'est vraiment, il y a 20 ans de réflexion derrière cet album, dans le sens où je me dis, quand je dis 20 ans de réflexion, c'est pas genre, j'ai pas 20 ans de réflexion sur les textes, mais il y a 20 ans de...
20 ans de vie.
Il y a 20 ans de vie de se dire, ah, en fait, on peut faire 3 fois, 4 fois la même erreur. Ok. Et pourquoi on l'a fait? Ah, je sais pas pourquoi on l'a fait, mais je l'ai fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter de la faire deux secondes? Ok. Ah, ça y est, j'arrête de la faire. Merde, je viens de la refaire. Putain, ah. Bon, bah, peut-être qu'il y a un truc qui va pas, que je comprends pas. Ah, ça s'appelle l'inconscient. Ok. Freud, c'est qui? Ok. Freud. Wikipédia. Jacques Lacan. Ok. Jacques Lacan. Identification. Ok, j'ai compris, mais ça, ah, j'ai refait l'erreur. Putain, j'avais compris, mais pourtant j'ai fait l'erreur. Et voilà. Et merde. Et bon, voilà. Ça y est, j'ai pas compris. Ça y est. Ah, ça y est, j'ai compris, mais ça y est, j'ai intégré cette fois. Ah, d'accord. Parce que comprendre, c'est pas intégrer. Ok, d'accord. Ok, tu peux comprendre des choses, mais ne pas les intégrer. D'accord. Maintenant que j'ai intégré, putain, j'ai refait l'erreur. Ah, putain, intégrer, en fait, ça suffit pas. Il faut se battre contre soi-même des fois, ou il faut accepter de ne pas être cette personne aussi. Ok, ah, ok. Et à un moment donné, bah, ça donne des chansons.
C'est trop drôle aussi de voir à quel point, tu sais, j'imagine que tu l'as vu, mais t'es dans le docu d'Aurel où tu viens jouer sur le Zénith, son fameux Zénith. Là, je me souviens, j'étais dans la salle, c'était tellement drôle de te voir. Quelques années plus tard, vous finissez par faire bloquer. Donc, en fait, tu finis par rentrer dans la bande d'Aurel, entre guillemets, et en fait, tu finis par travailler avec des gens qui sont dans l'ombre des albums d'Aurel, quoi.
C'est fou. Ouais, c'est vrai. Ouais, indirectement, oui.
Oui.
Oui. Mais c'est pas volontaire, c'est indirectement.
Je sais bien que
c'est la rencontre avec Guillaume, par exemple. Guillaume, c'est un mec de Reims.
Qui est le réel de ton...
Non, ça c'est Clément Lib.
Ah pardon, ok.
Mais Guillaume avec qui je fais le premier morceau, j'ai le morceau né chez lui qui s'appelle Agendas. Le morceau est né chez lui à 4h du mat à Reims. On est juste Rémois, quoi. On est deux artistes Rémois, on se dit, ah ça va, tu fais quoi ce soir? Ah, je sais pas, viens, on discute. On mange un bout, on va, il me dit, ah j'ai mon studio là, j'ai un appart à Reims, j'ai loué, vas-y viens, on y va, tac, puis on discute, on rigole avant tout. On écoute des chansons, on écoute, et puis on dit, ah j'ai cette idée là, j'ai cette envie, ah ouais, vas-y, on y go. Voilà, peut-être qu'il y aura un deuxième album, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça dépend des rencontres, et je rencontre Clément Lib aussi, c'est très marrant que tu parles du Zénith d'Aurel, parce qu'au Zénith d'Aurel il y avait Big Flo et Oli, et c'est là que je les rencontre. Big Flo et Oli, après, ils m'appellent, ils me contactent, ils sur Facebook, ils veulent que je fasse leur clip, donc je fais leur clip. Ensemble, on fait, c'est leur premier vrai clip mainstream sur leur album. Là, le clip part bien, du coup, il y a une belle résonance pour eux. Et puis après, tout leur parcours est formidable. Enfin, ils ont bossé comme des yinches, de toute façon. C'est des bosseurs, il n'y a pas de secret. Et à un moment donné, ils m'invitent sur une tournée des Zénith juste pour venir avec eux. Et je viens, et il y a ce gars, Clément Lib, et ils me disent « Ah, faut que tu rencontres Clément, il est trop fort. » Ok, bah, jusqu'à Clément, je lui fais écouter le truc que j'avais fait avec Guillaume. Il me dit « Ah, c'est génial, je veux bien qu'on se réfléchisse. » Puis pendant 3 ans, on se parle, quoi, à distance. Je compose des démos, lui, il les recompose derrière, il le fait 1000 fois mieux parce qu'il est plus fort. Que moi, je suis juste un gars qui a des idées. Lui, c'est les mettre en orchestre. Et puis, petit à petit, il y a des choses. Puis après, je me mets à aller à Toulouse, une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine par-ci, une semaine par-là. Puis je vais me soigner à Toulouse, en fait. Je vais pas du tout écrire, je vais me soigner. Je vais sortir des choses que j'ai en moi. Et c'est un peu le message de l'album, c'est sortir pour aller mieux, c'est sortir les choses, créer pour aller mieux, quoi. Et créer, c'est pas que écrire des chansons. Créer, c'est aller se faire une balade, parler avec ses amis, parler avec un psy, faire du sport, s'acheter une feuille A4 et faire de l'aquarelle dessus. C'est faire de la cuisine, c'est créer, c'est ça. C'est plein de choses. Créer des moments avec des amis, ça c'est créer déjà.
Ah ouais, je crois qu'on a... trop l'impression de se dire que c'est forcément réservé à des artistes.
Non. Mais on est tous artistes. J'aime pas trop les gens qui disent, ah, il y a les artistes, les gens qui se parlent. Tout le monde est un peu artiste. Tout le monde a envie de faire plaisir aux autres. Les artistes, je pense qu'avant tout, ils ont envie de faire plaisir aux autres. Ils ont envie de savoir s'ils ont le droit d'être là, déjà. Et avoir, bah ouais. Si leur raison d'être est là. Et donc, ça donne un truc un peu bizarre avec une sorte de projection de l'ego. Parce qu'ils créent une sorte de projection de leur ego, mais. Non, il faut créer, c'est important. On met pas assez la. C'est pas vrai. On met la création. On faisait de la pâte à sel quand on était en CP, tu vois.
Ouais.
On faisait de la pâte à sel, de la drawing gum. Pour les gens qui connaissent la drawing gum, je viens de vous faire un choc mental de 25 ans de régression, là. Non, mais il faut. On dessinait, il y avait des trucs, tu vois. Après, quand le dessin, c'est devenu une. Tu sais, une. À un moment donné, le dessin, c'est devenu une. Une matière au lycée. Genre, il faut faire du dessin, quoi, au collège. C'est là genre, bah non, ça va être plus drôle, quoi. Mmh. C'est pas drôle du tout, là. Il y a rien de... Je dois rendre un truc. Ça m'amuse pas. Tu ne m'apprends absolument pas la créativité. Tu m'apprends l'obligation. C'est pas du tout ça, la créativité. C'est bien d'avoir une deadline, mais une deadline sur quelque chose que t'as envie d'exprimer. Pas sur un exercice de style. Là, tu me demandes juste d'être un imprimeur avec un bras beaucoup trop cher. C'était une imprimante beaucoup trop sophistiquée pour... J'ai toujours détesté l'art plastique. Toujours. Je trouvais ça fou de me dire, mais... C'est comme la musicologie, c'est l'histoire de la musique, mais c'est pas comme ça que tu deviens musicien. C'est comme le conservatoire. Le conservatoire, ça fait des bons élèves.
Ouais.
Pour le conservatoire que j'ai connu, pas le conservatoire de certaines conservatoires, mais... Être un bon élève, est-ce que ça fait un bon artiste ou un bon musicien? Je sais pas.
Mais tu sais, par exemple, moi j'ai joué du piano pendant 10 ans, et j'ai appris du piano comme un bon élève. Et en fait, je suis incapable. J'ai pas d'oreille de ce fait-là. J'ai juste appris des partitions et interprété des partitions. Mais à aucun moment, je me suis retrouvé avec un prof qui m'a appris la musique et qui m'a dit, tu vois ça, dun dun dun, c'est un do. Et ça, din din din, c'est un ré. Tu vois, c'est sans doute pas un ré d'ailleurs.
Non, mais c'était vraiment un do. Un do. Mi.
Parce que t'as l'oreille absolue.
Non, mais alors, au-delà de j'ai pas d'oreille, est-ce que t'as pris du plaisir à le faire?
Quand j'étais gamin.
Est-ce que c'est de la satisfaction? C'est pas pareil.
Ouais.
D'avoir réussi quelque chose ou est-ce que t'as pris du plaisir à le faire? C'est pas la même chose. Moi j'ai compris récemment, c'est la satisfaction d'avoir abouti quelque chose et le plaisir de l'avoir fait. C'est pas la même chose du tout. J'ai réussi. Ah bah je suis fier de moi. Non. Est-ce que c'était plaisant? Non, c'était pas plaisant. Alors là, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème.
Il faut aller voir le plaisir.
Ah ouais, il faut aller voir le plaisir, bien sûr. Meilleur indicateur du monde. t'as du plaisir là, tu peux le faire gratuitement et par plaisir. Alors là, c'est bon, t'as trouvé la source, mon pote. La source que tout le monde cherche, tu l'as trouvée.
Et t'as l'impression de l'avoir trouvée, toi ?
Oui.
Oui. Cette réponse, pas du tout.
Oui. Non, mais c'est prétentieux de dire j'ai trouvé la source.
Non, mais t'as l'impression d'être dans le plaisir là aujourd'hui ?
Oh. Écoute, grave. J'ai compris beaucoup de choses sur moi. J'ai compris beaucoup de choses sur mon chemin. Ma femme a apporté beaucoup de clairvoyance sur ma personnalité, sur qui j'étais, pourquoi je faisais les choses. Elle a débloqué énormément de choses chez moi. Et aujourd'hui, là, je sens que je vais passer mais une quarantaine apaisée.
Ça se sent tellement.
De ma boule. Mais dans le sens, le plaisir sur scène que je prends grâce à elle. Elle m'a fait comprendre des choses.
Ah, elle est ta muse, quelque part.
C'est ma muse, c'est ma motivation, c'est ma réflexion, c'est un allié. C'est un vrai allié. Et les choses que j'avais compris avec Navo pendant 10 ans, bah, hop, elle a pris le relais, elle est partie à d'autres choses. Et en fait, elle a beaucoup étudié la psychologie, surtout le coaching mental, tu vois.
Okay.
Et en fait, elle m'a apporté des clés, mais c'était sous mes yeux tout ce temps-là. Et en fait, elle m'a apporté des choses. Et c'était sous mes yeux.
Et tu crois pas que dans ta vie, c'était sans doute le bon moment, pardon pour cette vanne, mais pour la rencontrer ?
Bah, alors oui, mais l'album par exemple, l'album termine un cycle de 3 ruptures amoureuses compliquées, même 4 ruptures amoureuses, même 5 ruptures. L'album se termine en je vais maintenant que j'ai tout mis sur un texte. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Et il se trouve que je la rencontre derrière et on emménage ensemble et on est chez nous maintenant. Et on est chez nous, je suis rentré chez moi, clairement, je suis techniquement rentré chez moi. Mais je vais te dire un truc qu'elle m'a fait comprendre qui était hyper intéressant et ça j'ai compris et je me dis waouh, c'est fou. C'est que peu importe mon éducation, j'en suis arrivé à un moment donné, mon éducation sociétale ou même avec mes parents et mes rapports aux autres, j'ai toujours identifié le ça va, donc il y a un truc qui va pas. J'ai identifié le moment de paix comme un moment où je me disais, tiens là, c'est pas normal.
Ah yes.
Et toujours une inquiétude parce qu'à un moment donné, on va venir te voir et on va te dire, ah, pas bien. Mon père était comme ça, il rentrait à la maison et il disait, vous avez fait quoi là ? Hein ? C'est genre, je sais même moi, je savais pas ce que j'avais fait, j'avais rien fait. Ou j'ai pas fait mes devoirs, ou j'ai pas fait mes trucs. Etc. Mais constamment, j'ai longtemps associé ça. Et en fait, elle m'a dit, c'est marrant, c'est que des fois, je pouvais être dans un moment de bonheur. Et automatiquement, dans mon script de cerveau, c'était « oui, mais ça, ça ». Et en fait, mon cerveau allait compulsivement chercher des histoires, soit les inventer, soit raconter des vieux dossiers d'une altercation que tu as eu avec un ami ou un truc, un conflit, et il te le met dans le cerveau. Il fait « oui, mais ça, tu te rappelles, en 93, Christophe Schneider, il t'avait plaqué au sol et il t'avait volé ta casquette ». Là, je te fais une blague, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus... des choses qui te touchent en plus, donc
bien
ça évoque
sûr.
Des émotions négatives, donc moment de paix, ton cerveau compulsivement il dit ça existe pas, il dit ah ok, moment de paix, je vais aller chercher dans la besace, qu'est-ce que j'ai en ce moment, tiens je vais lui parler de ça, hop tu joues, du coup hop t'as un moment où t'es pas bien. Et en fait elle m'a dit, au début je lui dis bah donc moi j'avais compris ça, je me dis ok, j'ai des pensées qui sont contraires à l'instant, mais je me dis que c'est pas grave, c'est juste compulsif, je le vois, j'ai des pensées compulsives. Donc, c'est-à-dire que je suis bien et j'ai une pensée. Le petit démon me dit ah ouais, mais t'as pensé à ça ? Je fais ah putain, j'avais oublié ça, ouais, putain. C'est soit un futur négatif ou un passé négatif. C'est des trucs qui n'existent pas. Qui t'empêchent d'être dans le moment présent où t'es heureux. Et elle m'a dit un truc qui a changé ma vie, mais qui a changé drastiquement ma vie. Et j'espère que ça va vous aider, les gens qui écoutent ce podcast. Elle m'a dit donc, quand tu vas bien, ton cerveau, il te fait un truc pour que tu n'ailles pas bien. Donc, quand tu reçois l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Il m'a dit, ça veut dire que quand on t'envoie une angoisse, ça veut dire que tu vas bien. Donc l'angoisse, c'est le témoin du fait que tu vas bien. Et que la seule chose, ton script, il ne sait réagir qu'au fait que, vu que tu n'allais pas bien, vu que tu allais bien, il te dit c'est pas normal, donc il faut qu'il aille pas bien. Donc quand tu vas pas bien, c'est que tu vas bien. Mais qu'à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait « What ?» Et du coup, maintenant, quand je vais bien, j'ai une pensée, je me dis « Non, c'est que je vais bien. » Et du coup, ça balaye, mais d'une force. Hier soir, j'étais sur scène, j'étais là, j'étais en train de kiffer avec les gens, rigoler, taper des barres, et d'un coup, genre... Et si, et je fais, c'est normal, tu viens quand je vais bien. Je suis en train de kiffer avec les gens, là.
Oui, c'est plus marrant maintenant. Hein. Depuis que t'es avec cette femme, c'est relou, hein. On peut plus rien faire.
C'est une sorte de maïté.
C'est une maïté.
Mais en tout cas, ça, la connexion... t'as un script dans le cerveau qui respecte en fait tes émotions, t'as une belle émotion donc t'as des émotions négatives qui arrivent derrière, ça c'est un script. Mais si ce script se déclenche, ça veut dire avant tout que tu vas bien, donc identifie que tu vas bien. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est ouf.
C'est pas mal,
ouf. Et tu veux dire que quand t'es en train de jouer, là ça fait des plombes que tu joues ce spectacle, tu continues à... Je veux dire, t'es pas en mode automatique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ton cerveau il peut être là à te faire... Alors, voilà, tu te souviens de Christophe Bidule qui t'a plaqué? Bim, je te le balance dans la gueule, t'es devant 1500 personnes. Quoi.
Oui, c'est une pensée compulsive. Et ça, en fait, je pense que... Je vais parler un peu politique.
Ouais.
Mais pas politique dans le sens les gens aujourd'hui, les élections, les trucs
j'ai
comme
compris.
Ça. Je vais parler de... Je pense que la plupart des gens qui... Je pense qu'on devrait d'abord faire son autopsie et une autopsyché. Et je pense que cette autopsyché, elle est importante dans nos mécanismes décisionnels après, derrière, sur, même sur qui on vote, sur qui on fait, sur ce qu'on fait. Parce que mine de rien, en fait, il y a des choses qui nous appartiennent pas. Et moi, ce script de négativité ne m'appartient pas. C'est un script de conditionnement. C'est-à-dire, j'ai été conditionné avec plusieurs événements dans ma vie qui me regardent. Je vais pas les exposer aux gens, ça me regarde. Et c'est à moi de les identifier. Mais quand je les ai identifiés, ça m'a pas changé ma vie. Je les avais identifiés, ça n'a pas changé ce que je disais tout à l'heure. Comprendre, c'est pas intégrer. Donc j'ai dit ok. Donc maintenant j'ai compris mon script. Maintenant je sais raisonner avec le script. Ça peut dire que c'est facile tous les jours, mais moi j'ai compris. Et j'ai compris et j'ai intégré. Et je pense que savoir un peu son cheminement de psychologie, d'avoir assez d'expérience dans la vie, 20 ans, 30 ans, pour se regarder et se dire ah ok là il y a un problème. Je pense que ça peut clairement changer la société dans laquelle on vit. Et ça peut clairement l'ouvrir dans quelque chose de très positif. Alors, c'est pas bisounours ce que je raconte, c'est très concret ce que je raconte. Pour ça, pas. Par contre, et c'est la clé derrière ça, c'est qu'il faut du temps pour soi. Et c'est pas facile quand on a un taf, 3 enfants, situation de divorce compliquée. Ça doit être très compliqué à gérer de dire maintenant j'ai du temps pour moi pour réfléchir. Personnellement, j'ai eu du temps pour y réfléchir et voici le message, si j'avais un truc. Voici la conclusion que j'ai à apporter. Alors donc, je suis peut-être dans une position qui est privilégiée, mais voici le temps que j'ai consacré à ça et je pense que c'est important pour s'améliorer.
Excuse pas
Non, mais parce que c'est facile pour moi. Parce que Bien ça sûr. Peut paraître facile et insolent de dire, ouais, bah, ça va, lui, et là, il se lève le matin à 14h. Déjà, c'est pas vrai, je me lève pas à 14h, mais tu vois, il va dire, voilà, lui, il a que ça à foutre de sa journée. C'est vrai. Et ben, pendant ce temps-là, j'ai réfléchi et voici ma conclusion. Et je pense qu'en améliorant des choses, on améliore nos rapports aux autres et nos rapports aux autres sont améliorés. Du coup, ça crée un système vertueux et on est plus inspirant que expirant, quoi. On a plus il est là que il est là. Voilà.
On revient à l'amour de soi toujours. J'ai vraiment l'impression.
Oui, c'est vrai. C'est
vraiment ce truc de plus tu vas vers l'acceptation de quitter de l'amour de toi, plus.
Ouais, te comprendre.
Plus t'es capable.
T'intégrer. Ça passe par une phase de ok, voici les choses que je n'aime pas, voici les choses que je commence à aimer, ok, je vais aller plus vers là, les gens que j'aime pas, ok, les gens que j'aime bien, les gens qui m'apportent du bien, les gens que j'aimais, mais je me suis rendu compte que je les aimais parce que j'étais conditionné à les aimer, alors qu'en fait, elles sont pas bonnes pour moi, ok, donc revenir à ça, voilà. C'est un peu ce dont traite l'album d'ailleurs.
C'est bravo pour ce chemin.
Bah merci, on commence la quarantaine, j'ai hâte.
C'est vrai que t'as 39, non?
39, ouais.
Allez!
Ouais.
T'as vraiment hâte de la quarantaine?
Non, j'ai hâte d'être maintenant, je m'en fous, je suis bien maintenant.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené ou dont t'aurais bien aimé parler?
Non.
À la réflexion.
Méfiez-vous du mot succès, voilà, méfiez-vous du mot succès.
C'est trop intéressant ça. T'as l'impression d'avoir du succès toi aujourd'hui?
Mec, j'ai de la chance, j'ai une chance énorme.
C'est pas de la chance, c'est du travail.
Non, mais la chance, c'est la chance, ça se travaille.
Oui.
Faut pas oublier. J'ai de la chance et je l'ai saisi cette chance que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai de la chance.
La chance n'appartient qu'à ceux qui s'y sont préparés.
Vraiment, oui, mais il y a plein de gens qui ont travaillé, c'est pour ça que le succès, il y a plein de gens qui ont bossé qui n'ont pas eu cette chance derrière. Je connais beaucoup d'artistes qui n'ont pas réglé des trucs avec eux-mêmes et du coup qui n'ont pas su saisir la chance. mine de rien. Ça, je pense qu'ils auraient un autre stade de carrière aujourd'hui s'ils étaient, s'ils avaient réglé des choses avec eux-mêmes, quoi.
Mais donc, on est bien d'accord que ça nécessite du travail.
Oui, ça décide du temps et de la remise en cause. Alors, ça fait pas plaisir de se remettre en cause, de dire que t'as eu tort et de t'excuser auprès
des gens. Très compliqué.
Oh là, c'est dur. Mais voilà, ça.
On n'a pas envie de ça d'une manière générale.
Non, c'est vrai que le cerveau, il aime pas avoir tort. Je pense que c'est un biais dans le cerveau. Il veut pas remettre en cause les choses. Donc, il fabrique une réalité autour pour dire, c'est bon, non, mais t'inquiète, on a bien fait. En tout cas, en termes d'abonnés sur Instagram, pour des gens, j'ai du succès. En termes de gars qui fait du stand-up dans des grandes salles, oui, j'ai du succès. Après, est-ce que c'est ce que je recherche? Bah, non, parce que sinon, je vais pas dire non, parce que c'est nul, parce que c'est kiffant.
Tu m'avais déjà dit, tu vois, par exemple, que t'avais commencé à avoir du succès à partir du moment où t'avais arrêté d'aller le chercher.
C'est exactement ça. Mais non, mais c'est ça. En fait, c'est pas ça. Ça dépend par où tu le places. S'il y a un jeune humoriste qui m'écoute, il va trouver ça insolent que je dise oui. Enfin, j'ai du succès, c'est cool, ou j'ai pas de succès, ou le succès c'est pas ça, la vraie vie c'est pas ça.
Imagine,
ou si je parle à quelqu'un qui galère au RSA et je dis ouais, l'argent c'est cool, mais trois petits points et tu fais ce que tu veux derrière, il va dire ouais, bah ouais, mais c'est facile, t'en as. Oui, c'est, oui, d'accord. Ça dépend du moment où on se place. Maintenant, il faut se placer du moment où je suis. Du moment où je suis, là où je suis moi, je ne vais pas répondre pour les autres. Je réponds pour moi.
Bien sûr, c'est à toi que je pose la question.
J'ai beaucoup travaillé. Et pour moi, j'ai eu la chance que ça paye, ce travail. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent des heures et des heures et des années et ça ne paye pas. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Je viens dans une salle, je viens à Strasbourg. Il y a des gens qui se déplacent pour me venir voir, ils payent une nounou. Oui, c'est une chance énorme que les gens te fassent confiance pour ça. J'essaie pas de me dire tous les soirs, sinon je vais me mettre la pression, mais.
C'est vrai.
Bah ouais, t'imagines. Imagine, tu dis putain, ils ont payé une nounou et tout, alors j'espère que moi j'ai.
Tu doutes?
D'accord. Alors toujours, ça, toujours. Toujours un petit doute. Toujours. Il est de moins en moins criant, mais il est toujours là.
Et même après avoir joué ton spectacle des dizaines de fois, comme là.
Toujours un petit doute.
Ok.
Le petit doute qui déclenche l'adrénaline. Plus d'adrénaline, plus de plaisir, plus d'utilité. Mauvais spectacle, rentre chez toi.
Merci Kian.
Merci à vous.
C'était super.
Je peux faire de la promo pour une association?
De la promo.
Allez voir l'association Linky, qui travaille très très fort et très très dur. Qui est une société qui est dysfonctionnelle. Du coup, il y a une association qui est fonctionnelle, qui s'appelle Linky. Qui aide à apporter du soutien alimentaire, psychologique auprès des étudiants qui sont en galère avec le Covid. Donc Linky, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner des denrées alimentaires. Linky, allez-y, L-I-N-K-E-E, Linky. Prenez le temps d'aller les voir, même de leur envoyer un petit message pour les soutenir. Rien que ça, ça peut être cool, peut être kiffant. Mais en plus, vous vous sentirez bien après. Bisous.
Merci Kian.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.